s'ouvre sur de nouveaux fronts. En 1950, la Corée, partagée entre les communistes au nord et les Américains au sud, se déchire. Le premier affrontement direct entre les deux blocs va faire une fois n'est pas coutume. Plusieurs millions de morts. La paix. Voilà un mot qui semble déjà devenu bien désuet. Le retour sous les drapeaux des jeunes Américains survivants de la Deuxième Guerre ne se fait pas sans heurts. On leur a vendu un rêve en 1945, celui que cela ne recommencerait jamais. Les Marines sont de retour au combat. Ils lancent pour la première fois du napalm sur les terres coréennes. Il faut vite en finir et repousser les communistes au nord. Cela ne va pas se faire en un claquement de doigts. L'opinion générale en Occident regarde de loin ces guerres qui paraissent imperceptibles. Elles sont bien souvent invisibilisées, surtout en Europe de l'Ouest. Il faut dire que la paix n'est de retour que depuis quelques années. Et pourtant, la population ne va pas tarder à comprendre tout l'enjeu de l'opposition entre les deux blocs qui se font face. Un nouveau venu sur l'échiquier mondial va s'imposer. La Chine, nouvellement communiste, va devenir un allié de poids pour Staline. Cette situation va provoquer de nombreuses inquiétudes. 6 mai 1953, Sénat américain. Roy Cohn, 26 ans, est un jeune homme au pouvoir grandissant. Bras droit du sénateur McCarthy, il interroge sans mesure dans le cadre d'une commission montée spécialement pour l'occasion les artistes et les fonctionnaires suspectés d'être des relais de la propagande communiste en Amérique. Devant lui aujourd'hui, un certain Aaron Copland, le compositeur, depuis plusieurs années, subit les foudres de ceux chargés d'éradiquer aux États-Unis l'idéologie soviétique. Lors de la cérémonie d'investiture du président Eisenhower, il y a quelques mois, son Lincoln Portrait devait être joué. Mais sur intervention d'un sénateur républicain de l'Illinois, l'œuvre a été interdite au tout dernier moment. Et voilà que Copland, accompagné de son avocat, doit se défendre devant le Sénat de ne pas être un suppôt de Staline. Rien n'a jamais prouvé que le musicien était un membre du Parti communiste. Mais pendant 4 heures, Cohn jette en pâture le compositeur. Copland est sommé de répondre à des centaines de questions, parfois sans queue ni tête. Mais le McCarthyisme, c'est aussi cela. Un spectacle, une mise en scène, dans laquelle l'humiliation et l'intimidation sont les deux piliers principaux. Alors qu'il sort totalement éreinté de sa confrontation au Sénat, Aaron Copland est tétanisé. Inscrit sur la liste noire du cinéma, il rumine. Compositeur de la musique du film « L'héritière » en 1949, il a remporté l'Oscar. Et voilà qu'aujourd'hui, il se retrouve blacklisté comme un paria. Une bien drôle d'ironie qui prouve que la tension mondiale atteint son paroxysme. Comprendre ce qui mène le compositeur devant le Sénat en 53, il nous faut revenir un peu en arrière. 1950 est donc une année charnière dans ce début de guerre froide qui divise le monde. Les guerres de Corée et d'Indochine, tout comme l'arrivée de Mao au pouvoir en Chine, provoquent une instabilité en Asie absolument inédite. Les bilans sont terribles. En Indochine, la France est déjà enlisée depuis plus de 5 ans, de la folie. En moins d'un trimestre, les forces américaines et onusiennes sur le terrain coréen ont perdu plus de 20 000 hommes mis hors de combat, le tout sans pouvoir endiguer la vague rouge qui s'abat sur la Corée du Sud. Une grande attaque navale est menée contre le port de Séoul en septembre 1950. Les Américains sont à la manœuvre de cette grande opération qui mobilise plus de 200 navires. Reviennent en force les souvenirs des débarquements précédents, en Provence et en Normandie. Cela ne se terminera-t-il donc jamais? Dans des barges améliorées depuis les actions de 1944 contre les nazis, des milliers de Marines se jettent à l'assaut. L'opération est une réussite totale et la bataille est remportée en moins d'une heure. MacArthur, qui en a eu l'idée, est porté au nu. Mais le plus dur commence. Pour mettre la pression sur le régime nord-coréen, prendre la ville de Séoul est un objectif indispensable. Les combats sont violents, incertains, longs aussi. Mais la capitale du Sud est reprise à la fin du mois de septembre 1950. Aux États-Unis, la haine contre les communistes est de plus en plus vive. Le maccartisme prend de l'ampleur. Il ne va pas tarder à provoquer de nombreux heurts pour bien des carrières, notamment celle de Copeland. En Corée, les communistes sont enfin repoussés au nord, mais les Américains, contre leur ordre de mission émis par l'ONU, pénètrent en Corée du Nord avec un objectif clair. Il faut réunifier le pays et bouter Kim Il-sung, le leader en place hors des terres coréennes. Le monde retient son souffle une fois de plus. Mais plus elle avance en territoire ennemi et plus l'armée US est surprise de ne trouver personne face à elle. Ni soldats, ni habitants. Les villages sont vides. Les quelques prisonniers sont jeunes, inexpérimentés. Bref, on se demande bien ce qui se passe. Les communistes sont-ils en fuite? Certainement pas. Ils préparent au contraire leur contre-attaque. Et c'est la Chine de Mao qui va sortir du bois. Mais les Américains insistent et progressent. Ils vont le regretter. En attendant, les US Boys prennent Pyongyang et s'infiltrent toujours plus dans les terres normalement défendues par les communistes. Victoire ? Oh non, il n'en est rien, non. Dans l'ombre, des centaines de milliers de Chinois sont rassemblés. Ils vont passer à l'action, le jour de Thanksgiving. Les Marines se sont défaits et se replient dans un froid polaire. Staline, lui, jubile. Le président américain, de son côté, laisse pour la première fois planer le doute. Oui, l'utilisation de la bombe atomique est possible à ce stade du conflit. En Europe, la situation n'est guère plus reluisante. L'étau se resserre en Allemagne de l'Est, la RDA. Et d'aucuns imaginent qu'une invasion communiste à l'Ouest est possible. Alors on réarme. Le spectre de la guerre, toujours plus, se ravive davantage. Et si les États-Unis devaient bientôt se battre sur deux fronts? En Europe, les tensions sont toujours plus importantes. Et en Asie, le bourbier est total. La France, pourtant, a tenté de se sortir de l'ornière indochinoise en accordant l'indépendance au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Le tout en rejetant Ho Chi Minh et ses partisans, en installant un régime qui lui est favorable. Le conflit contre les Rouges s'enlise. Et les Américains commencent à y apporter un support logistique. Mais à la fin de l'année 1950, les troupes françaises se replient face aux assauts ennemis dans le Nord. Ils se prennent les pieds dans le tapis. Malgré la nomination du grand général Delattre de Tassigny, la situation devient de plus en plus périlleuse pour les Français. Mao joue de toute son influence pour aider Ho Chi Minh et les Américains sont impuissants. Le grand jeu de dupes marche à plein. D'un côté, Staline se présente comme le chantre de la paix mondiale et provoque des manifestations dans tous les pays européens pour appeler au pacifisme. De l'autre, Truman maintient que son objectif est d'éviter une troisième guerre mondiale. Mais dans les faits, la guerre est déjà là et elle continue de provoquer des légions de morts. Alors, lorsque Staline meurt en mars 1953, on s'attend à ce que l'étau se desserre. Mais non. La machine soviétique est trop bien huilée. Le communisme s'est répandu dans le monde entier et aux États-Unis. Le maccartisme est une doctrine avec de beaux jours devant elle. Les époux Rosenberg, exécutés en juin 1953, sont les symboles de cette intransigeance et de cette peur qu'inspire l'idéologie rouge. Copeland n'en est qu'une des victimes parmi d'autres. L'artiste va continuer de composer. The Tenderland, son opéra sur l'Amérique rurale, va par exemple être créé en 1954. Copeland va survivre au maccartisme. Appalachian Spring et ses autres chefs-d'œuvre vont continuer d'être joués dans les salles de concert américaines. Les guerres en Asie, elles, ne vont pas sourire au bloc de l'Ouest. L'Indochine est perdue après la catastrophe de Dien Bien Phu. En 1954, le conflit en Corée, lui, s'est terminé 6 mois plus tôt par la signature d'un traité qui acte le retour à un statu quo d'avant-guerre, à peu de choses près. Des millions de morts pour ça. Cela n'est hélas qu'un début. La guerre froide, avec la mort de Staline, est loin de se terminer. Elle va même s'intensifier. Un nouveau venu en Europe va marquer les esprits durant des décennies et faire peser sur le vieux continent une inquiétude terrible et tenace. Son nom ? Le rideau de fer. Copland et ses contemporains vont apprendre, dès le milieu des années 50, à vivre avec le mur de Berlin et cette frontière fortifiée. La peur au creux des ventres va se répandre. Bombes atomiques et Troisième Guerre mondiale bientôt vont s'imposer comme des futurs de plus en plus probables. Le monde, une fois n'est pas coutume, est en train de danser sur le fil du rasoir.